Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Radio Cité Genève, bonjour. C'est l'heure de retrouver nectar.ge.ch, l'émission consacrée au vin genevois, avec Aristide et son invité, Céline Dugerdil. Bonjour.
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 Eh bien, je salue d'abord Céline Dugerdil, qui nous fait le plaisir, l'amitié de venir, qui va nous instruire, tout simplement. Céline Dugerdil est la patronne, si je peux dire comme ça. Il y a beaucoup de termes, des fois, on dit vigneronne, viticultrice, etc. Je dis la patronne du domaine de la printanière. D'où vient ce nom, la printanière?
La printanière, c'est le lieu dit, en fait, tout simplement, de la plus grosse parcelle qui est en face de la cave, donc sur la commune d'Avuy.
Voilà, c'est un lieu dit.
Exactement. Donc, qui a été choisi par mon père à l'époque où il a construit la cave.
J'adore ces lieux-dits. Je peux vous dire que il y a la toponymie qui avait été étudiée par Ferdinand de Saussure, avec tous ces noms qu'on retrouve même d'un pays à l'autre. C'est quelque chose qui est savoureux. Très bien, la printanière. Vous avez d'autres lieux-dits, parce que j'ai cru comprendre que votre domaine touchait Satigny, Dardanier, etc.
Exactement. Alors, écoutez, il y a aussi une bonne partie qui se trouve sur la commune de Dardanny, sur le lieu dit la Donzelle, donc un joli coteau plein sud ou très très pentu, qui est un petit peu plus compliqué à travailler, et puis aussi quelques parcelles sur la commune de Satigny à Chouilly, plus précisément dans ce petit hameau super joli.
Voilà,
et très traditionnel aussi. Où j'ai grandi, pardon.
Vous avez grandi
pour
là-bas.
Pour la petite histoire.
Très bien, donc ouais. Vous connaissez par cœur. Vous parlez de la Donzelle très pentue. Est-ce que des fois vous devez remonter la terre?
Alors, avec des grandes précipitations, effectivement, on a des problèmes de terre qui descendent. Mais ça, c'est vraiment en cas de vraiment grosses précipitations. Mais il est arrivé qu'effectivement, ça se fait, quoi, disons, de remonter un petit peu de terre.
De temps
en temps. Mais c'est plutôt les sarments en temps de grosses pluies qui dévalent un petit peu ces pentes. Et puis qu'il faut faire un petit peu attention, puis les remettre un petit peu dans les rangs.
On laboure de moins en moins, ou bien?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué dans ce secteur-là. Mais disons que ça fait entre 35 et 40% de pente. Donc, la labour, on est plutôt... disons que l'objectif, ça serait que la terre tienne d'elle-même, donc engazonnée à l'idéal, mais c'est pas encore du tout fait.
D'accord. À Vuilly aussi, c'est très pentu. C'est une vigne magnifique.
Ouais, c'est un petit peu moins pentu, mais néanmoins tout aussi difficile à travailler, parce que c'est pas mal en dévers. Et puis surtout sur ce côté-là du Rhône, on a aussi les sols qui sont un petit peu gorgés d'eau. Donc c'est pas on n'y va pas quand on veut, quand
D'accord.
on souhaiterait.
D'accord.
Donc c'est ça aussi sa difficulté.
D'accord. J'essaye toujours de m'instruire, donc j'ai lu que vous avez un domaine de 10 hectares. Ça correspond à combien de personnes qui sont employées
Alors on est trois vraiment à fond à l'année.
Donc un chef de culture.
Voilà, un chef de culture effectivement qui est presque quasiment toute l'année à la vigne, hein, sauf quand il faut donner des coups de main à la cave, évidemment pendant les vendanges aussi. Et puis il y a mon compagnon qui est avec moi, Frédéric Cernali, et puis qui est venu me rejoindre il y a quelques années sur le domaine, qui est de même formation que moi, et puis il y a moi-même qui fait un petit peu de tout.
Voilà, donc j'ai lu aussi que fiche signalétique, on est là-dedans, 10 hectares, 13 cépages, et il y en a 3.
Je crois même 15 maintenant.
Ah, il faudra mettre le site à jour.
À jour.
Voilà. Donc, ça m'intéresse. Bon, d'abord, le Riesling Sylvaner.
Oui.
Est-ce que vous nous parleriez un tout petit peu du Riesling Sylvaner, qui me semble être quasiment en voie de disparition?
Il est en voie de disparition, mais c'est vrai qu'il y a à peu près 30-40 ans en arrière, il y avait énormément de Riesling Sylvaner. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Riesling qui s'est fait arracher. et qui a été arraché pour replanter des spécialités à la place. C'est vrai que nous, on en a toujours gardé une parcelle. Et puis maintenant, effectivement, on n'est plus qu'une petite paire de viticulteurs à en produire. Et puis, je dirais que ça redevient une spécialité. Voilà, s'il est, il est bien vinifié, je trouve que c'est un vin sympa, léger, fruité, qui passe tout seul. Et puis même qui s'associe bien avec du poisson.
S'ils disparaissent, c'est pour raison de vulnérabilité face à la maladie.
Alors, bon, il faut quand même être honnête. Le Riesling Sylvaner est quand même pas si simple à produire, à exploiter. C'est vrai que c'est assez productif, donc il faut un petit peu faire attention à la charge. Mmh. Et puis c'est surtout au moment des vendanges où là, il est très, très sensible à la pourriture. Donc, il faut vraiment être
vraiment à surveiller.
À surveiller en temps un petit peu humide, puis ouais, en temps de précipitation. Donc il faut pas hésiter à aller le chercher quand on le sent, quoi. Si on, il y a un petit départ de de petite pourriture là, faut pas trop tarder en général.
Voilà. Alors là, j'avoue mon ignorance totale face au Sibyllus. Qu'est-ce que le Sibyllus?
Alors c'est simplement un nom de fantaisie d'un assemblage blanc, qui est un assemblage entre du Kerner et une petite pointe de Sauvignon blanc. Mais c'est vrai que c'est la majorité
d'accord
de Kerner.
D'accord, donc c'est pas un cépage.
Pas du tout. Non, c'est très un peu bien. Justement, à la base, on avait choisi un petit peu, hein, on savait pas très bien où on allait, puis c'était un petit peu sibyllin pour nous. Donc qu'est-ce ça vient un petit peu de ce terme-là.
D'accord. Et Camerlot, évidemment, il y a la racine Cabernet, puis Merlot, est-ce
ouais
que ça?
Alors la racine, effectivement, était un Cabernet et un Merlot. Et ça, c'est une autre petite histoire, c'est que ça ne l'est plus, ce n'est plus du Cabernet et du Merlot, c'est du Cabernet, effectivement, une base de Cabernet, mais le Merlot est devenu du Gara Noir, en fait, parce que le premier millésime, quand on l'a sorti, le Camerlot, ben, c'était super, et puis le deuxième, il y a eu un petit... il y a eu une grêle, donc sur le Merlot, et on n'a pas pu l'exploiter comme on voulait, et puis on n'a pas fait une grosse production, et comme je vends aussi du Merlot pur, j'ai préféré garder ce Merlot pour la bouteille de Merlot pur.
Voilà, donc ça devrait s'appeler désormais le Cara Noir.
Voilà, voilà. Ça devrait, mais c'est vrai que les étiquettes étaient déjà là, donc voilà.
Première pause dans nectar.ge.ch. Retour après cette musique.
Radio Cité Genève.
Toi t'aurais voulu jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélodies d'amour et les feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes. Tu t'es fait débrider les yeux, mais comment faire pour qu'ils soient bleus? Du dollar.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour dans l'émission nectar.ge.ch avec Aristide et son invité.
Son invité qui est Céline Dujardil du domaine de la Printanière. Voilà, on a un petit peu décrit le domaine. J'aurais encore voulu vous interroger sur la fête du sapin.
Ah, qui est devenue une fête traditionnelle du domaine. Effectivement, on l'organise toujours le deuxième dimanche de décembre. C'est un petit peu aussi l'occasion de faire une cave ouverte, entre parenthèses, où on invite aussi notre clientèle, mais c'est aussi ça regroupe en fait une bonne paire d'amis qui à cette occasion ils font des ventes de sapins. Voilà, les gens peuvent venir acheter leurs sapins, déguster nos vins évidemment, mais il y a aussi des producteurs, des artisans qui présentent leurs produits tels que des saumons fumés, des choses un petit peu pour Noël qui font envie, des truffes au chocolat. Et puis c'est vrai que c'est très très familial. Bon, c'est vrai qu'il y a une belle place où on monte des tentes, où tout le monde peut venir manger la raclette, hein. Et là, je salue au passage l'équipe raclette, Roby, Adri et tous ces copains qui animent cette raclette depuis quelques années, qui sont des fidèles. Et puis, c'est l'occasion de faire déguster nos vins dans une ambiance vraiment très très conviviale à l'approche des fêtes de fin d'année, où vous trouverez en fait des bonnes petites choses à manger. Voilà, c'est plutôt effectivement, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt gourmet.
Voilà, très bien.
Donc, en étant gourmande.
Votre clientèle, on peut dire que c'est une espèce de famille, et puis vous n'exportez pas en Australie.
Ah, pas vraiment, mais on ne sait jamais. J'exporte déjà en Suisse allemande, c'est déjà un bon début.
Ouais. Non, c'est bien, c'est toute une philosophie. Et personnellement, j'apprécie ça beaucoup. C'est la rencontre, les
exactement.
Verres qui s'entrechoquent.
Exactement.
Les personnes qui font connaissance, etc.
Tout à fait, ouais, vraiment. Et puis, il y a vraiment des habitués qui reviennent chaque année. On est étonnés. Donc, c'est vrai que ça nous demande quand même pas mal d'organisation. Mais puis on avait peut-être éventuellement l'idée éventuellement pas d'arrêter mais de changer un peu le concept, et on nous a dit mais alors vraiment surtout pas, ne changez rien, voilà, continuez comme ça. C'est pas trop mercantile, on va dire. C'est une
bien.
rencontre
simplement. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Céline Dujardil et moi-même en avons discuté, et il s'agit des soins prodigués au vin dans la période qui court entre récolte, pressage du raisin et puis mise en bouteille. Moi, surtout quand il y a un beau millésime, par exemple comme 2018, je me dis voilà, ils ont pressé le raisin, il a fermenté, maintenant qu'ils se dépêchent de le mettre en bouteille, parce que on est impatient de découvrir le nouveau millésime.
Oui.
Et puis, il se trouve qu'on doit patienter à peu près 6 mois pour les blancs jusqu'au mois de mars. Mais qu'est-ce que vous faites pendant ce temps ?
Ouh là là ! Alors, il y a tellement de manipulations et de choses à faire, mais c'est vrai que... Alors, étonnamment, paradoxalement, on a une année très tôt. Et puis, je ne sais pas si vraiment les vins vont être prêts si tôt que ça. Bon, il y en a peut-être qui devront mettre en bouteille assez rapidement. Mais il y a une telle concentration de sucre dans le raisin qui ont fait que nos fermentations ont traîné, et vraiment c'était vraiment pas simple à la cave. Étonnamment, l'année était magnifique, voilà, il y a eu du soleil, les raisins étaient sains, c'était splendide, mais le travail de cave était néanmoins assez difficile, on va dire. Voilà, le suivi des vins était vraiment faut être vraiment pointilleux cette année. Je trouve, pour ma part, c'est vrai qu'il y a eu des fins de sucre très très compliquées, et des fois qui ont donné des manipulations à faire en plus pour relancer ces fermentations, les finir. Non, c'était vraiment pas tout simple. Mais c'est vrai que maintenant, je pense que la plupart sont terminées. Et puis il y a une période de froid qui va commencer là, ou qui est déjà, voilà, les vins sont au froid pour la plupart. Et puis voilà, on va gentiment peut-être, en tout cas pour ma part, les clarifier. Mais c'est vrai qu'entre le pressurage et maintenant, il y a eu beaucoup de manipulations, il y a quand même beaucoup de transvasage aussi. Mais c'est vrai qu'on essaye au minimum de les toucher, on va dire, hein, tant qu'on n'a pas besoin, voilà, on les laisse se faire.
Quand vous parlez de transvasage, je m'interroge. Je me rappelle un vigneron de Dardagny, bon, c'était la génération d'abord, qui disait, monsieur X, machin, il transvase tellement ses vins qu'ils font dans des tuyaux deux fois le trajet de Genève à New York.
Ah.
Et alors, à quoi ça sert?
Bon, alors effectivement, en fin de la toute première fermentation, qui s'appelle la fermentation alcoolique, à la fin de cette fermentation, il y a un transvasage qui se fait pour enlever déjà les grosses lies qui sont produites pendant ces quinzaines de jours, hein, donc qui amèneront peut-être certains mauvais goûts au vin. Donc déjà, il y a une première un premier jet de transvasage qui déjà pas affine, mais je veux dire, on voit déjà un petit peu plus où le vin va aller. Et puis après, c'est pas forcément qu'il y en a d'autres qui vont se faire. Ça dépend vraiment du choix de l'œnologue ou bien de l'encaveur. Mais c'est vrai qu'il se peut qu'un vin soit peut-être un petit peu fermé au nez, c'est-à-dire un petit peu sur la réduction. Donc il demandera un tout petit peu d'oxygène pour qu'il s'ouvre. Et on peut faire un transvasage, mais vraiment gentil, pas très violent, hein, pas pour aller à New York, on va dire.
Donc c'est une opération de purification, en somme.
Purification, on peut appeler ça comme ça, mais vraiment, ouais, on va dire d'ouverture, mais il faut y aller mollo quand même avec ces transvasages.
D'accord. Donc,
moins on en fait, mieux on se porte. Hein, ouais, effectivement.
Voilà. Alors maintenant, vous êtes transvasé.
On a stabilisé, puis, hein, surtout.
Stabilisé. Voilà, stabilisé, qu'est-ce que ça signifie? Que le vin chimiquement n'évolue plus?
Voilà. Alors pour les rouges, ils auront fait leur deuxième fermentation. Donc la fermentation malolactique, qui est une sorte de désacidification naturelle par des bactéries. Et puis voilà, on va les stabiliser, on va ajouter ces fameux sulfites, hein, mais vraiment à des doses raisonnables, pour qu'ils soient stables, qu'ils évitent d'évoluer au niveau de l'oxygène. Et puis voilà, maintenant il y a le froid qui va se faire, une période un peu de dormance. Et puis ça va aussi, une autre sorte de désacidification naturelle par le froid. Donc ça va précipiter un peu de tartrique.
On fait une nouvelle pause. Retour après cette musique.
Radio Cité Genève.
Silver bullet cigarette, this burning house, there's nothing left but smoking. But we both know it. We're gonna have to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. Nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. Crashing in the dark. And there's broken.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Bienvenue sur Radio Cité Genève, c'est l'heure de la troisième partie de nectar.ge.ch.
Nous sommes en compagnie de Céline Dujardil qui nous explique ce qu'elle fait, parce qu'elle n'est pas partie à ski ces temps, je ne pense pas. Mais donc, elle a beaucoup de travail dans la cave. Donc, jusque-là, tout va bien. C'est-à-dire que les fermentations, peut-être de manière un peu laborieuse cette année, elles ont pris fin, elles sont achevées. Il y a eu ensuite des transvasages. Mmh. Et puis, après les transvasages, on a stabilisé, donc avec des sulfites. Avec modération, bien entendu. Et puis alors maintenant, c'est bon, vous attendez la mise en bouteille ou bien... J'avais cru comprendre qu'il y avait des analyses.
Alors, oui, de toute façon, les analyses, pour ma... Enfin, personnellement, je suis mes vins assez pointilleusement depuis la... Vraiment depuis les vendanges jusqu'à la mise en bouteille. Parce qu'elles évoluent vraiment au cours des fermentations, au cours de l'évolution du vin. Donc c'est quand même un pointage qui m'oriente par rapport au vin. Et puis voilà, effectivement, il y a des analyses pour voir où on en est au niveau des acidités, et puis des SO2, des acides aussi, maliques, tartriques. Enfin ça c'est tout plein de données un peu techniques, effectivement, qu'on suit quand même assez pointilleusement. Et puis, non, là, maintenant, je dirais plutôt, il y a une phase de clarification qui va se faire gentiment au milieu de cette période de froid où on va clarifier pour une première fois les vins, c'est-à-dire, voilà, les faire passer dans un filtre pour un petit peu... pas épuré, hein, pas du tout, mais je veux dire un petit peu rendre le vin plus brillant.
D'accord.
Voilà, ça sera avant la mise en bouteille.
D'accord, donc il faut qu'il soit brillant à vin trouble, c'est pas vendeur.
Si, alors tout à fait, hein, il y en a qui...
Il y en a qui aiment ça.
Non, mais il y a bien les vins de Neuchâtel, enfin, les vins non filtrés, ça, il n'y a pas de souci, mais ça, après c'est des vins spécifiques, il faut les... Voilà, ça fait pas vraiment partie de ma gamme pour le moment, mais c'est vrai que la plupart des vins chez moi sont clarifiés, et puis voilà, ça m'indiquera s'il faut les travailler effectivement par la suite avant mise en bouteille.
Je veux faire une comparaison bêtement ou intelligemment médicale. Je vais chez le médecin, il veut me faire des analyses, il me prélève du sang, 4 ou 5 petites éprouvettes,
voilà.
Il envoie ça au laboratoire. Le laboratoire analyse ça, les résultats reviennent chez le médecin, et le médecin me prescrit ceci, cela. Je suis quitte pour aller à la pharmacie, puis prendre toute une... Voilà. J'aimerais savoir si c'est la même chose. Vous prélevez des échantillons.
Absolument.
Vous les envoyez au laboratoire.
Tout à fait.
on analyse votre marchandise.
Absolument.
On décèle peut-être pas un défaut, mais une petite chose à laquelle il faut remédier d'une façon ou d'une autre. Et on vous prescrit quelque chose. On vous prescrit quoi ?
Alors, mais après, juste pour la petite chose, c'est que c'est quand même nous les médecins, c'est nous qui décidons si on prescrit ou pas. Le choix, c'est vraiment notre propre décision. Après, c'est que des conseils œnologiques qu'on nous donne. Mais c'est vrai que ça nous incombera à nous notre décision de faire quelque chose ou pas, d'intervenir ou pas sur ce vin. Et ça peut être des petits collages ou
collages.
Collage.
Ça se fait toujours avec du blanc d'œuf.
Non, pas pour ma part. Mais évidemment, si on peut les éviter, c'est vraiment mieux. Enfin, je veux dire, c'est que le vin, il n'a pas besoin. C'est vraiment en cas de besoin. C'est des petits produits, vraiment, s'il faut un petit peu arrondir le vin ou s'il faut simplement l'ouvrir, parce qu'il y a vraiment un problème de réduction, et puis que les transvasages ne suffisent pas. Mais c'est vrai que, si on peut les éviter, on les évite, hein, ça c'est clair.
Le laboratoire, c'est un service d'État ?
Oui, tout à fait, oui.
Qui travaille pour tous les vignerons ?
Il y en a un autre. Il peut y avoir des privés et un étatique.
Ouais. Est-ce que tous les vignerons y recourent ?
Ah, pas
bien
du tout.
Il y en a qui font
pas du tout.
Leur petite popote.
Exactement. Il y en a qui sont bien montés. Simplement, moi, c'est vrai que j'ai pas les instruments pour, mais c'est vrai. Là, non. La plupart des grandes caves sont montées pour faire leurs propres analyses. Non, ça, il y a pas de. C'est chacun leur petite cuisine. Hein.
Voilà. Donc, vous avez vos analyses, les résultats tombent, et vous dormez tranquille.
Ou pas. Mais voilà. En général, oui.
Voilà, d'accord. Et puis alors, après, la dernière étape, ça sera la mise en bouteille.
Alors, effectivement,
voilà,
oui.
Alors,
oui.
Ça sera un sujet en soi.
Oui.
Je voulais savoir, pour du vin que j'ignore, je ne sais pas si vous avez des vins en fût de chêne.
Oui.
Mais quels sont les soins ? Donc, il y a des gens qui bâtonnent, etc., etc. Les soins dans le fût de chêne, il y en a aussi.
Alors, oui. Effectivement, c'est un petit peu moins possible de d'intervenir, hein, parce que
là ils sont fermés ici.
Voilà, exactement. Après, c'est vrai qu'il y a du bâtonnage qui se fait sur certains vins, notamment les blancs, surtout. Mais après, c'est vraiment chacun sa petite. On revient à ça, mais sa petite cuisine, ses petits secrets, ce qui fait qu'on donne notre pâte à notre vin, quoi. Mais franchement, là, quand on sort les barriques et puis qu'on les déguste et puis qu'il y a absolument rien besoin de faire, on est quand même super content de mettre en bouteille tel quel, quoi. Vraiment, c'est que le travail de la barrique la barrique a fait son travail et puis il n'y a pas à intervenir. Mais c'est vrai qu'il faut quand même les suivre. Hein. C'est pas parce que c'est en barrique qu'on les laisse de côté. Hein. Pas du tout. Hein. Je dirais que vraiment c'est régulier. Hein. C'est toutes les semaines,
Toutes les semaines.
Ouais. Déjà pour houiller recaper la barrique, quoi. Pas la laisser à l'air.
Je finirai par une question particulière. Est-ce que vous avez des secrets ?
Je pense que tout le monde a des secrets.
Non, je vous pose la question parce que il y a quelques vignerons comme ça, droite à gauche, hein, c'est pas forcément à Genève, qui font un vin particulier. Puis je dis mais non d'une pipe. Bon, et puis c'est des gens que j'interroge, je les traque.
Ah mais je pense que
ils répondent de manière évasive. Ouais. Vous comprenez, nous on laisse faire la nature.
Nature, ouais, l'authenticité.
Mais je suis bien persuadé qu'ils ont leur petite combine, leur petit tour de main.
Je pense que franchement, déjà, concrètement, le 70% du vin se fait quand même à la vigne. Donc, après.
Donc, des beaux raisins.
Bon, je pense que. Non, c'est pas un secret, mais je veux dire. Je pense qu'on a chacun nos petites méthodes, effectivement, d'accord, qui font que, on est différents les uns des autres, en fait.
D'accord, très bien. Alors maintenant, nous sommes impatients d'attendre. Nous attendons avec impatience la mise en bouteille. Ça sera pour quand, pour les chasselas ?
Alors les chasselas, je pense courant printemps, mais c'est vrai qu'il y a des spécialités qui vont. Moi, je vais mettre plutôt certaines spécialités, telles le Sauvignon blanc, Vous parliez du Riesling Sylvaner, effectivement, j'en aurais besoin.
Il devrait y avoir des avis dans la presse quand la mise en bouteille se fait, puisque c'est à disposition des clients.
Bon, en général, après, il faut pas. On a toujours des millésimes. Le vin se boit pas forcément par rapport aux millésimes qu'on vient de faire. Hein. Ouais. On a des vins aussi qui tiennent dans le temps. Donc, les caves ouvertes ont, par exemple, une bonne journée pour déguster tous nos millésimes et pas seulement celui qui vient d'être mis en bouteille.
Ouais.
Donc, il y a des belles choses qui tiennent
donc,
la route.
Donc, la mise en bouteille est très étalée, finalement.
Absolument. Il peut y avoir des mises en bouteille. Souvent, il y a des mises en bouteille au printemps. Et puis, il y a les mises en bouteille d'automne aussi. Notamment avec les Futchen aussi, qui sont sortis après vendange pour remettre le vin nouveau dedans.
Très bien. Ben, écoutez, je le redis, nous attendons de pied ferme le millésime 2018.
Dans un instant, la quatrième partie de Nectar, et nous aurons le fameux retour de la chaussette qu'on attend avec une certaine impatience.
Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour dans l'émission nectar.ge.ch avec Aristide et son invité.
Voilà, retour en force de la chaussette. Donc, pour mémoire, vous pouvez chemiser une bouteille avec une chaussette, avec ce que vous voulez, avec un sac en plastique, avec un vieux journal, mais chemisez-la quand vous avez des radoteurs chez vous, parce que les radoteurs, comme ça, ils seront muets. Donc, voilà, c'est la chaussette, c'est une façon de neutraliser les radoteurs et les bluffeurs. Bon. Et puis, c'est quand même la vérité du vin, de le déguster et d'en parler après coup. Voilà. Alors, nous avons une bouteille qui est bien entendu chemisée. Il a été dit clairement à Céline Dujerdil qu'il ne s'agit pas d'une devinette. Hein, on ne doit pas dire, ah, ça c'est le Riesling Sylvaner de Monsieur Tartempion 1983, c'est pas du tout ça le but, il s'agit de le commenter, de donner un avis sur sa richesse, sur sa longueur, enfin sur ses qualités et défauts, mais bien entendu que ce sera...
De toute façon, je ne suis pas sûre que je serais capable de déceler, même si on est professionnel...
Le bouchon est en ordre, impeccable, c'est irréprochable. Juste. Voilà, donc Céline Dujerdil prend son temps, c'est une excellente chose. Je peux vous la décrire en pleine action, elle a commencé par humer et elle a incliné son verre de différentes façons, voilà. C'est une opération à laquelle il faut consacrer du temps.
Oui, tout à fait. Bon, déjà, on voit que la robe est d'un joli jaune pâle, le nez est friand, frais. Je veux pas faire de devinette, mais je m'orienterai déjà vers un chasselas, mais je veux pas, voilà.
Oui, là, bien sûr, un chasselas, voilà. Bien sûr, bien sûr. Notre chasselas.
D'accord, votre.
Non, le nôtre, oui. Parce que c'est quand même le cépage blanc, je le vois. Disons, c'est pas pour rien si la tradition l'a consacré.
Tout à fait. Il a du corps, hein, ce chasselas. Très bon, très fruité. Il est long en bouche, surtout, je trouve. Il reste bien, bien dans tout le palais. Et puis, ouais, c'est vraiment un excellent chasselas, je dirais.
Eh bien, c'est moi qui vais vous donner la réponse. D'habitude, on donne à enlever la chemise aux invités. Je peux vous dire que c'est le chasselas d'une de vos excellentes collègues.
Ah.
Qui est déjà venue ici.
Ah, d'accord.
On peut pas dire qu'il est mauvais, puisqu'il a été primé.
Non, il est excellent, moi,
si
je viens de dire.
Si je découvre la bouteille, je vois un sanglier.
Waouh.
Avec la mention or.
Ouais, ben voilà.
Et c'est le chasselas de votre collègue Sarah Mellan.
Ah, super, ben voilà.
Et alors, c'est une transition idéale, puisque Sarah Mellan et vous-même, et bien d'autres, vous vous retrouvez chaque année au Bal des Vigneronnes.
Exactement. Alors le Bal des Vigneronnes est un bal organisé par, je dirais une bonne dizaine de copines vigneronnes, encaveuses, cavistes, œnologues. Voilà, et on se retrouve chaque année à organiser ce bal qui se tient mi-juillet à Dardani. Voilà, sur une place entre deux hangars. Et cette idée est partie de collègues qui s'appellent Sophie Dujerdil, Emilienne et Claude Boquet, Emilie Nutin. Et voilà, elles avaient trouvé qu'il y avait un emplacement qui venait de se construire, deux grands hangars avec une très belle place à ciel ouvert. Et puis elles s'étaient dit, bah voilà, pourquoi pas organiser un bal à ciel ouvert. Et effectivement, depuis 5 ans, il y a une belle ambiance à organiser ce bal. Il y a un groupe live qui se produit. Et puis, il y a l'occasion de manger des produits du terroir, un bel agneau à la broche, notamment. Et c'est surtout l'occasion de déguster une belle palette de vins. Voilà, forcément, il y a les vins des vigneronnes, ça c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres collègues, qui nous prêtent aussi l'endroit et la place pour organiser ce bal. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment aussi le fait de se retrouver, tout au long de l'année pour organiser ce bal. En fait, c'est un peu une excuse, hein, parce que à chaque fois, on devrait avancer sur le projet, mais à chaque fois, ça, on est assez contente de se retrouver, puis c'est vraiment, on passe des belles soirées à papoter, entre autres.
Voilà, non, mais puisque j'y suis allé, je peux en parler un tout petit peu. Ça donne l'impression d'une grande complicité entre les vigneronnes en question.
Très bonne collégialité,
À titre personnel, je trouve bien louable, intéressant qu'il y ait cette affirmation comme quoi ces dames, face au vin, sont des artistes, tout comme des hommes peuvent l'être, etc. Et c'est bien qu'on cesse de penser que le vin, c'est une affaire d'hommes. Pendant ce temps, ces dames tricotent, par exemple, ou en buvant des infusions, etc.
Pas tout à
non,
fait.
Les femmes sont des artistes extrêmement talentueuses et nous sommes heureux d'avoir reçu parmi celles-ci, Céline Dujerdil, domaine de la printanière, que je remercie.
Merci à vous, c'était un plaisir, un réel plaisir. Merci beaucoup.
Radio Cité Genève.